Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les Gathas présentent, en français, les hymnes attribués à Zarathoustra, figure fondatrice du zoroastrisme ancien. Publié chez Albin Michel dans la collection Espace Libre Spiritualité Vivante, cette édition de poche reprend la traduction et la présentation de Khosrow Kazai Pari. Le volume ne se réduit pas à une anthologie religieuse, il cherche à rendre accessible un corpus très ancien. Composé dans une langue avestique archaïque, dont la compréhension demeure philologiquement exigeante. Les chants sont accompagnés d'un dossier historique destiné à situer leur transmission et leur importance. La démarche privilégie une lecture poétique et spirituelle. Attentive aux grandes orientations éthiques du texte Ahura Mazda, la pensée juste, la justesse, le choix humain et le refus de pratiques violentes. Le livre propose ainsi moins un traité systématique qu'une rencontre avec une parole hymnique, dense et parfois difficile. Il convient de le lire comme une traduction interprétative, qui associe restitution littéraire, contextualisation religieuse et réflexion sur les origines de la tradition zoroastrienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les Gathas comme noyau ancien de la tradition zoroastrienne, le premier intérêt du volume tient au statut particulier des Gathas. Ces hymnes constituent la partie la plus ancienne de l'Avesta et sont traditionnellement associés à Zarathoustra. Leur langue, plus archaïque que celle de nombreux textes avestiques ultérieurs, explique à la fois leur valeur historique et leurs difficultés. Le livre rappelle que leur déchiffrement moderne a demandé un travail comparatif avec les langues indo-iraniennes anciennes, notamment par proximité avec le sanskrit védique. Cette situation impose une prudence essentielle, le lecteur ne reçoit pas une doctrine transmise de manière transparente, mais un texte lointain, lacunaire par certains aspects, et dont plusieurs passages admettent des lectures concurrentes. La traduction de Khosrow Kazai Pari a donc une fonction décisive de médiation. Elle donne une cohérence lisible à des chants qui resteraient largement fermés sans appareil de présentation. Le dossier historique prolonge cette médiation en distinguant autant que possible le matériau ancien des développements religieux plus tardifs. Pour un lecteur francophone, l'enjeu est de découvrir une source majeure de l'histoire religieuse iranienne sans la confondre avec toutes les formes postérieures du zoroastrisme. Le livre vaut ainsi comme porte d'entrée dans un corpus fondateur, mais exige une lecture consciente de la distance linguistique et historique qui le sépare du présent. Deuxièmement, Ahura Mazda est une conception éthique du divin. Au centre des hymnes se trouve Ahura Mazda, nom qui désigne le seigneur sage dans la tradition zoroastrienne. L'audition met particulièrement en avant la justesse et la pensée juste comme orientation fondamentale liée à cette figure divine. Le propos ne consiste pas seulement à affirmer une puissance supérieure, il associe le rapport au divin à une qualité de discernement et à un ordre moral. Dans ce cadre, la religion ne se limite pas au rite ou à l'appartenance collective. Elle engage une manière de comprendre, de parler et d'agir de façon conforme à la vérité et à la droiture. Les présentations commerciales décrivent Zarathoustra comme un précurseur du monothéisme. Cette formule situe utilement son importance, mais elle doit être reçue avec nuance. Car les catégories de monothéisme, dualisme et polythéisme ne recouvrent pas sans reste les formes anciennes de pensée iranienne. Le mérite du livre est plutôt de faire apparaître une forte polarité éthique. La sagesse divine sert de référence à une vie humaine responsable. Cette insistance distingue les Gathas de simples récits mythologiques. Le texte met en jeu une interrogation directe sur les conditions d'une existence bonne et juste. La traduction poétique cherche à préserver cette intensité en faisant entendre une parole religieuse où la louange, la demande et la réflexion morale demeurent étroitement liées. Troisièmement, le choix humain entre pensée juste et force de tromperie, les Gathas accordent une place remarquable à la responsabilité humaine. La pensée juste ne relève pas d'une adhésion abstraite, elle doit orienter les décisions, les paroles et les actes. La tradition issue de Zarathoustra est souvent résumée par le triptyque « bonne pensée, bonne parole et bonnes actions ». Même si cette formule est surtout connue par la tradition zoroastrienne dans son ensemble, elle éclaire bien l'orientation morale mise en évidence par cette édition. Le sujet humain est appelé à choisir entre ce qui favorise la vérité, la vie et la justesse, et ce qui relève de la tromperie, de la violence ou du désordre. Cette structure ne dispense pas de penser les situations concrètes. Au contraire, elle donne au jugement une portée religieuse chaque conduite, participe à un affrontement moral plus vaste. Le livre présente ainsi Zarathoustra comme critique des faux dieux, des sacrifices sanglants et de la corruption des autorités politiques ou religieuses. Il faut éviter de transformer ces thèmes en programmes politiques modernes, mais leur présence explique la résonance actuelle que peut avoir le texte. La critique vise des pratiques et des pouvoirs qui détournent les êtres humains de la lucidité et de la droiture. Le lecteur y rencontre une spiritualité du choix, dans laquelle la foi se mesure aussi à la qualité éthique des relations humaines et de la conduite publique. Quatrièmement, une poésie sacrée dont la traduction assume une part interprétative, le livre se distingue par son ambition littéraire. Les gathas ne sont pas exposés sous la forme d'un manuel doctrinal, ce sont des chants sacrés, marqués par l'adresse à Ahura Mazda, la répétition, la densité des images et la concision. Traduire cette poésie ancienne suppose des arbitrages constants entre fidélité lexicale, intelligibilité française et restitution du mouvement spirituel. Khosrow Kazaï Pari annonce une approche qui cherche la moelle substantielle du texte plutôt qu'une correspondance strictement mot à mot. Ce choix peut rendre la lecture plus vivante et plus immédiatement méditative. Il constitue aussi une limite à reconnaître dans un corpus dont certains termes et passages sont difficiles. Toute traduction littéraire oriente nécessairement la compréhension. Le lecteur intéressé par la philologie gagnera donc à considérer cette version comme une interprétation informée, non comme une solution définitive à chaque problème de sens. Cette réserve ne diminue pas sa valeur. Elle précise plutôt son usage, le volume permet d'entrer dans la tonalité morale et contemplative des hymnes sans exiger une spécialisation linguistique. La présence d'un cadre historique aide à ne pas isoler les vers de leur contexte. Par son équilibre entre poésie et explication, le diction rend sensible le fait que la forme hymnique porte elle-même la pensée, elle ne décore pas une doctrine. Elle façonne une expérience de parole, de demande et d'engagement. En dernier lieu, lire un texte ancien sans lui imposer des catégories contemporaines. La modernité souvent attribuée aux gathas vient de thèmes reconnaissables critiques de la violence rituelle, exigence de vérité, valeur du discernement et responsabilité des individus face au pouvoir. Ces proximités peuvent rendre le livre intellectuellement fécond à condition de ne pas effacer son étrangeté historique. Zarathoustra appartient à un horizon religieux iranien ancien, très éloigné des débats contemporains sur la religion, la morale ou la politique. La traduction propose une voie d'accès à cet horizon, mais le lecteur doit résister à deux simplifications opposées. La première consisterait à faire des gathas la source unique et directe de toutes les traditions monothéistes ultérieures. Les relations historiques entre traditions sont plus complexes et font débat. La seconde serait de réduire les hymnes à une relique érudite, sans portée pour la réflexion actuelle. Le volume évite en partie cette réduction en soulignant la vigueur de ces questions éthiques. Son dossier historique est alors indispensable, il donne des repères sur la place de Zarathoustra, sur la transmission du texte et sur les transformations de la tradition zoroastrienne. Cette double lecture, historique et spirituelle, représente le meilleur usage du livre. Elle permet de comprendre pourquoi ces chants ont été conservés, tout en examinant les idées qu'ils proposent sur la justesse, le jugement et la vie heureuse. La distance critique ne détruit pas la portée du texte, elle rend sa réception plus rigoureuse. En conclusion, les gathas s'adressent en priorité aux lecteurs de spiritualité ancienne, d'histoire des religions et de poésie sacrée. Il peut aussi intéresser toute personne qui souhaite aborder le zoroastrisme à partir de ses hymnes les plus anciens plutôt qu'à partir de résumés généraux ou de représentations tardives. Son bénéfice intellectuel principal réside dans le déplacement qu'il opère, il invite à considérer une tradition iranienne majeure, souvent moins connue que les religions abrahamiques ou les sagesses indiennes, par le biais de ses interrogations sur la vérité, la responsabilité et la conduite juste. Le bénéfice pratique demeure surtout réflexif. Les chants ne fournissent pas une méthode contemporaine prête à appliquer, mais ils proposent des critères de discernement qui peuvent nourrir une lecture éthique de la parole et de l'action. Par rapport à une étude universitaire spécialisée, ce volume privilégie une accessibilité littéraire et une tonalité spirituelle. Par rapport à une anthologie religieuse sans contexte, il apporte un dossier historique qui aide à mesurer l'ancienneté et la complexité du corpus. Sa singularité tient donc à cette association entre traduction poétique, ambition interprétative et mise en perspective historique. Les lecteurs cherchant une édition strictement philologique devront compléter leur parcours par des travaux savants et des traductions comparées. Ceux qui acceptent une médiation assumée y trouveront une entrée dense et sérieuse dans la parole attribuée à Zarathoustra, ainsi qu'un texte ancien capable de susciter une réflexion exigeante sur le choix moral. Si vous souhaitez soutenir Zarathoustra, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.